autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour et bienvenue à tous. Il faut toujours se méfier en histoire des sciences de la notion de précurseur. La préhistoire, discipline relativement récente, doit pourtant son existence à une génération de fondateurs qui ont entrepris des fouilles dès le 19e siècle et ont eu l'intuition qu'il existait un homme fossile. La célébrité de Jacques Boucher de Perthes a éclipsé un autre homme qui avait eu avant lui de bien meilleures intuitions. Il s'agit de Paul Tournal, pharmacien de Narbonne, passionné de géologie, journaliste et homme engagé. Quel préhistorien fut Paul Tournal ? Qu'a-t-il trouvé dans les grottes de Bise, dans le sud de la France ? Quelle controverse l'a opposé à Cuvier ? Comment a-t-il séparé science et religion ? Comment ce méridional a-t-il tenté de décentraliser les forces intellectuelles dans le Midi ? Quels furent ses engagements politiques, notamment lors de la révolution de 1848 ? Autour de la question Paul Tournal, prophète de la préhistoire, la réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour Jean-Guilaine.
Bonjour.
Vous êtes en duplex depuis le MOOV à Toulouse, vous êtes professeur au Collège de France et vous publiez avec Chantal Alibert aux éditions Odile Jacob, Paul Tournal, fondateur de la préhistoire. Est-ce que ce sont vos origines méridionales qui vous ont conduit à vous intéresser à Tournal ou en tout cas un double intérêt géographique et scientifique ?
Ben écoutez, un peu tout en réalité. Il se trouve que pendant l'essentiel de ma carrière, tout en étant chercheur au CNRS puis universitaire, j'étais conservateur des collections de préhistoire du musée de Narbonne, patrie de Paul Tournal.
Voilà.
Et donc, j'ai conservé les quelques documents qui nous sont parvenus des recherches que Paul Tournal avait réalisées à Bise lorsqu'il a fait ses recherches aux alentours de 1825.
Les grottes de Bise dans l'Aude.
Et au-delà, oui, voilà.
Voilà. Mais pourquoi, à votre avis, Tournal a-t-il été éclipsé par l'histoire des sciences, notamment par la figure de Boucher de Perthes ? On y reviendra. C'est parce qu'il était provincial ?
Je pense que ça a joué, bien entendu. Il était loin des instances de pouvoir, il était loin de l'intelligentsia parisienne, si je puis employer cette expression, qui n'a rien de péjoratif, c'est comme ça. Bon. Et en fait, je crois qu'il avait d'excellentes idées, mais il n'a pas persévéré. Autrement dit, il y a eu cette polémique pendant quelques années autour des idées qu'il existait un homme fossile et qu'il défendait, alors que Cuvier avait une vision tout à fait différente. Mais il a donné ses idées sur la préhistoire et puis il est passé à autre chose dans sa vie. Et ça n'est que plus tard, lorsqu'effectivement Boucher de Perthes a commencé de publier ses ouvrages et que les voix officielles ont dit oui, Boucher de Perthes a raison, il y a un homme préhistorique, n'est-ce pas, etc. À ce moment-là, Tournal a un peu pris ombrage de cette notoriété montante de Boucher de Perthes. Il a dit, mais vous savez, et il a écrit aux gloires de l'époque, comme Larté, Mortillan, en disant, mais en fait, c'est moi qui, le premier, ai parlé d'un homme fossile. On lui a rendu justice, mais, si vous voulez, c'est Boucher de Perthes qui est passé à la postérité.
Voilà, et puis ce qui est passionnant avec Paul Tournal, c'est qu'il couvre toute une partie du 19e siècle et qu'il s'est intéressé à énormément de choses. Il a été journaliste, il a été engagé en politique, il s'est aussi occupé de préservation du patrimoine, il était nourri par les idées saint-simoniennes. On va essayer de parler de tout ça dans cette émission, Jean-Guilaine. On va d'abord essayer de s'intéresser au début de Paul Tournal en préhistoire et on va voir à l'époque où il a commencé, où en était la préhistoire. Depuis quand s'intéresse-t-on aux vestiges ? Écoutez Nathalie Richard, professeure d'histoire contemporaine à l'Université du Mans. Elle était au micro de Jean-Noël Jeannet sur France Culture.
Dans les textes antiques, on trouve déjà des descriptions de quelques vestiges que nous considérerions désormais comme néolithiques. Par exemple, les Français ou les Francs descendraient des Troyens qui s'élaborent au 19e siècle. Donc il y a une construction à partir de quelques vestiges d'une généalogie qui permet de tracer une continuité entre le temps des mythes et le temps humain.
Dans le De Natura Rerum de Lucrèce, on voit distinguer, on est au 1er siècle avant Jésus-Christ, la succession des âges de la pierre, du bronze et du fer. C'est très moderne.
Oui, effectivement, ça peut paraître très moderne. Il s'agit chez Lucrèce d'une hypothèse philosophique. Cette hypothèse ne sera véritablement appuyée sur une argumentation archéologique qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, dans
c'est
les pays scandinaves.
C'est le temps de ceux qu'on appelle les antiquaires.
Oui, c'est une figure savante qui émerge à la Renaissance. Donc, ce sont des personnages dont les curiosités sont multiples, qui sont souvent tout à la fois des savants et des collectionneurs, qui s'intéressent à la fois aux sciences de la nature, à l'archéologie et à l'histoire, jusqu'à ce que des législations dans la plupart des pays mettent fin à l'association fouille-collection, à partir du moment où à la fois les fouilles sont réglementées et où les collections ne sont plus la libre propriété des individus privés qui découvrent les objets.
Voilà donc l'état des connaissances quand Paul Tournal commence à s'intéresser alors à la géologie, hein, puisqu'on ne parle pas encore de oui. préhistoire, c'est par la géologie qu'il entre
absolument,
dans la préhistoire.
Absolument. En fait, il est pharmacien, lui, mais il s'est intéressé à la géologie et à la minéralogie pendant ses études à Paris. Et lorsqu'il revient à Narbonne et s'installe comme pharmacien, il prend la succession de son père, qu'il était déjà dans l'officine familiale, disons. Il s'intéresse à la géologie. Il s'intéresse à la formation géologique du bassin de Narbonne, notamment. Et donc, il parcourt sa région et il tombe sur les grottes de Bise. Il fait des sondages dans les grottes de Bise, qu'il continuera ensuite en payant des ouvriers, d'ailleurs. Et il trouve, dans les sédiments des grottes de Bise, des ossements d'espèces disparues, des ours, des cervidés, des chevaux, n'est-ce pas, qui sont associés à des objets. Il appelle ça, il ne parle pas de silex. Et pourtant, le mot silex, il le connaît, ce terme-là, mais il ne l'emploie pas. Il parle de quartz pyromaque, c'est-à-dire en quelque sorte des pierres à faire du feu, d'une certaine façon. Et il voit également que sur ces ossements, il y a des traces qui ne sont pas naturelles, qui ne peuvent être faites que par intervention humaine. Alors, il écrit à l'Académie des sciences en 1827, et il faut rappeler qu'il n'a que 22 ans. Hein. Bon. Et il reçoit une réponse polie, n'est-ce pas, où on lui dit « Oui, écoutez, continuez, tenez-nous au courant. » Voilà, bon. Et évidemment, à cette époque, le grand paléontologiste, c'est Cuvier, la grande figure. C'est Cuvier, bien entendu, donc, qui est professeur au Collège de France, qui est à l'Académie des sciences. Et vous connaissez les théories de Cuvier, c'est que selon lui, la vie sur Terre a connu plusieurs états. Et chaque fois, ces états ont été anéantis par des catastrophes, n'est-ce pas ? Il y a donc des sortes de créations successives, et la dernière, c'est un phénomène qui aurait été universel, qui correspondrait au déluge de la Bible. Ça permet à Cuvier, en même temps, de jouer, si je puis dire, sur les deux tableaux. Et l'homme ne serait apparu qu'après. Autrement dit, l'histoire de l'homme serait très récente. Alors que Tournal, lui, dit que grâce à la géologie, l'histoire de l'homme, nous ne la connaîtrons que grâce à la géologie, et elle remonte à un temps qu'il n'est pas possible de déterminer.
Alors, on va reparler dans un instant, Jean Guilaine, de cette controverse avec Cuvier, mais je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette notion d'amateur, puisque à l'époque, tous les premiers préhistoriens étaient des amateurs. Écoutez ce qu'en disait Arnaud Hurel, spécialiste des débuts de la préhistoire, chercheur au département de préhistoire du musée Homme d'Histoire Naturelle. Il était notre invité en septembre 2015.
La difficulté du terme amateur, c'est ce que l'on met dedans. On peut être amateur d'un certain nombre de choses, en art, en poésie, en musique, mais on peut, tout en étant amateur, pratiquer cela en professionnel, c'est-à-dire avec une véritable rigueur. Pour qu'il y ait professionnel, il faut qu'il y ait des institutions, il faut qu'il y ait des diplômes, il faut qu'il y ait une reconnaissance sous une forme ou sous une autre. Or, pour la préhistoire, il ne faut pas oublier qu'il faut attendre 1941 pour que vous, moi, n'importe qui en France n'ait pas l'autorisation, n'ait pas le droit de fouiller, y compris chez lui, et de déterrer ce qu'il peut trouver, en faire ce qu'il veut, c'est-à-dire le disperser, le vendre, l'échanger. Donc c'est hier, 1941. Il faut savoir également qu'il faut attendre 1946 pour que soit soutenue la première thèse de doctorat d'État sur un sujet de préhistoire. Donc là, on est vraiment dans une actualité presque brûlante pour celui qui s'intéresse aux périodes un peu plus longues. Donc on pourrait presque dire que ces fameux amateurs, ceux qu'on peut qualifie comme amateurs, ont dirigé, construit, fondé la préhistoire, les études préhistoriques jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Un mot de réaction, Jean Guilaine, à ce que vient de dire Arnaud Hurel sur cette notion d'amateur en préhistoire ?
Oui, mais je partage tout à fait ce point de vue. Alors, c'est toujours pareil. Ce sont des amateurs. Cartaillac, par exemple, était avocat, mais il avait des biens personnels qui lui permettaient de se consacrer à la préhistoire. Souvent, ce sont des amateurs, au XIXe siècle, qui sont des gens aisés, quand même, n'est-ce pas ? Ce sont des bourgeois, souvent, qui peuvent consacrer du temps et des moyens à la discipline qu'ils sont en train de construire.
Mmh. Alors, Paul Tournal, on parlait de Cuvier tout à l'heure, et on va y revenir, mais il va également s'opposer à la classification de William Buckland, qui avait tenté une démarcation entre les dépôts anciens, qu'il appelle le diluvium, en référence ça, oui. au déluge, et puis les dépôts modernes, les alluviums. De quoi s'agit-il, Jean-Guilain ?
Oui, non, en fait, le diluvium, c'est ce qui correspond en gros au déluge, c'est-à-dire le moment de la catastrophe, n'est-ce pas, qui marque une césure avec les temps antérieurs et les temps postérieurs. Et Tournal, tout ça, va le discuter. Il va dire non, au fond. Évidemment, il est obligé de travailler dans les cadres qui lui sont donnés par les savants de l'époque.
Ouais, donc, il correspond beaucoup avec les savants de l'époque. Hein.
Bien sûr. Tout jeune qu'il est, d'ailleurs, ce qui devait surprendre, c'est ses correspondants, n'est-ce pas ? Un tout jeune homme, là, qui venait les contester, qui venait contester un peu leur science. Et donc, il s'oppose rapidement à cette notion de déluge. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Et bon. D'autres, comme Constant Prévost, Amibouet, tout cela, mettent un peu tout ça en doute et disent après tout, cette grande rupture n'existe pas. Il y a, au fond, non pas des événements cataclysmiques, abrupts, mais il y a de lentes transformations qui se produisent, tantôt avec des accélérations, n'est-ce pas, tantôt avec des moments de plus lents. Et c'est, au fond, ils rejoignent Lamarck.
Voilà.
Qui déjà avait parlé de transformisme, enfin je ne sais pas s'il avait employé le mot, mais Lamarck en quelque sorte pensait que les choses se transformaient à des rythmes divers, mais Lamarck a toujours été un peu marginalisé et Cuvier ne l'a pas, l'a un peu enfoncé si je puis dire, de manière triviale.
Voilà, on va revenir sur la controverse qui a opposé Paul Tournal à Cuvier, on va voir précisément comment on peut le situer dans la pensée scientifique de son temps. On en parle juste après Nguyen Le, Breathe sur RFI. Nguyen Le, Breathe sur RFI. Autour de la question, Paul Tournal, quel prophète de la préhistoire? On parlait tout à l'heure du contexte scientifique dans lequel Paul Tournal a fait ses recherches. Alors au 19e siècle, le creusement de réseaux miniers en liaison avec la révolution industrielle a favorisé le développement des sciences de la Terre. C'est ce que vous expliquez dans votre livre, Jean Guilaine. On trouve de nombreux ossements fossiles qui donnent naissance à la paléontologie et à l'anatomie comparée, dont Cuvier est considéré comme le fondateur. Écoutez Philippe Taquet, ancien directeur du Muséum d'histoire naturelle et grand spécialiste de Cuvier.
Il a été, en son temps, le réformateur de toute la zoologie, parce qu'il a repris l'intégralité du règne animal en étudiant, en disséquant, en dessinant tous les animaux, des invertébrés, des crabes, jusqu'aux oiseaux en passant par les primates, et il a réorganisé la classification zoologique pour montrer qu'on pouvait classer tous les animaux dans des grandes catégories qu'on appelle des embranchements, avec les vertébrés, les articulés, qui sont les insectes et les arthropodes, etc., les méduses. En faisant ces grandes catégories, il a mis de l'ordre, alors que c'était un peu le désordre avant. Et ça, grâce à une méthode très scientifique, qui est l'anatomie comparée, c'est-à-dire de comparer les organes d'un animal à ceux d'un autre équivalent, pour regarder les ressemblances et les différences. Ayant fait ce premier travail, il a pu aller plus loin, utiliser ses connaissances en anatomie comparée pour cette fois étudier les animaux disparus et les reconstituer comme s'ils étaient encore vivants. Et ça, ça a été un autre grand titre de gloire de Cuvier, c'est d'avoir montré que grâce au pouvoir de son analyse scientifique, il y avait des espèces complètement disparues. Le mammouth, montre Cuvier, est un éléphant fossile, comparable à l'éléphant d'Afrique, à l'éléphant d'Asie, certes, mais dont l'espèce n'existe plus aujourd'hui sur la Terre. C'est une espèce éteinte. Et ça, ça a été un choc au cours du 19e siècle. C'est le père de la paléontologie des vertébrés. Grâce à ce pouvoir de l'anatomie comparée, il va s'apercevoir qu'il y a eu dans le passé des reptiles volants, ce qui est évidemment conceptuellement quelque chose de révolutionnaire.
Alors, révolutionnaire, mais enfin, il ne va quand même pas jusqu'à avancer l'idée d'un homme fossile, comme le fait Paul Tournal. C'est vraiment très audacieux, au fond, cette idée de Tournal, d'homme fossile, Jean Guilaine.
Oui, alors Cuvier, je reviens sur ce que disait Philippe Taquet. Bon, il était très admiré, finalement, dans la mesure où il a créé une discipline. Il a fait revivre tout un monde disparu qui était totalement insoupçonné, bien entendu. Mais, comme vous le dites, il n'a pas fait intervenir l'homme dans ces choses-là. Pour lui, l'homme, c'était quelque chose qui apparaissait après sa dernière catastrophe, n'est-ce pas ? Et il n'entrait pas, en quelque sorte, dans les classifications plus anciennes. Et Paul Tournal a dit « mais il existe un homme fossile ». C'est pas comme il existe des animaux fossiles. Donc, il a appliqué le terme de fossile à l'homme, ce que un certain nombre de savants n'admettaient pas, bien entendu.
Et il faut voir qu'on est 30 ans avant l'apparition de l'origine des espèces de Darwin, quand
oui,
on a à cette intuition.
Voilà. De 1859, et là, on est à la fin des années 20 du 19e siècle, quoi. 1827, 1829, n'est-ce pas ? Alors, le problème de Tournal, n'est-ce pas ? Cuvier l'a contesté, notamment. Cuvier se méfiait des observations qui pouvaient être faites en grotte. Or, le terrain de Tournal, c'était une grotte. C'était les grottes de Bise, n'est-ce pas ? Parce qu'on pensait que, avec cette notion de déluge, de diluvium, la dernière catastrophe avait généré de grandes inondations qui avaient pu mêler, bouleverser tout ce qui constituait le remplissage des cavernes à l'époque. Et Tournal a essayé de montrer qu'on pouvait faire des stratigraphies dans les cavernes, n'est-ce pas ? Alors, lui-même a été un peu victime de son propre gisement, dans la mesure où il a probablement mêlé des niveaux d'époques différentes. Mais il a essayé de montrer que les stratigraphies pouvaient s'appliquer aux cavernes. Et je dirais que, quand même, la force au niveau des exemples de Boucher de Perthes, elle a été indiscutée dans la mesure où Boucher de Perthes, lui, a travaillé en plein air.
Voilà, dans la Somme. Alors, on va revenir sur tout ça, oui. Après les informations, Jean Guilaine, on va voir, oui, comment Paul Tournal va dissocier science et religion, ce qui n'est pas forcément le cas de tous, oui, ses contemporains. On va parler de ses engagements politiques, de son travail de journaliste, de son action pour la décentralisation et également pour la sauvegarde du patrimoine, et enfin de son retour à la préhistoire à la fin de sa vie. Autour de la question, Paul Tournal, quel prophète de la préhistoire ? Jean Guilaine, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
grande voix d'Afrique. Autour de la question.
Sophie Joubert.
Autour de la question, Paul Tournal, quel prophète de la préhistoire, avec Jean Guilaine, professeur au Collège de France. Vous êtes l'auteur avec Chantal Alibert de Paul Tournal, fondateur de la préhistoire, paru aux éditions Odile Jacob. Alors on parlait avant les informations des oppositions théoriques entre Cuvier et Paul Tournal. Elles portaient notamment sur la notion de catastrophe, de déluge universel, une notion qui a une forte connotation religieuse. Et Paul Tournal est l'un de ceux qui a contribué à distinguer science et religion. Écoutez de nouveau Arnaud Hurel, spécialiste des pionniers de la préhistoire. Certains de ces pionniers de la préhistoire arrivaient pourtant à concilier science et religion.
L'un de ceux qui ont fait le plus avancer la paléontologie, c'est William Buckland, qui était pasteur anglican, et qui, justement, défendait auprès des autres membres de l'Église anglicane l'importance de la géologie, qui, justement, allait permettre de démontrer la véracité du texte biblique. Et donc, c'est ce qu'on appelle le concordisme, faire concorder une réalité scientifique avec la réalité d'un écrit religieux. Et effectivement, on a beaucoup de religieux, que ce soit dans le monde protestant ou dans le monde catholique, qui sont des acteurs majeurs des progrès en préhistoire.
Alors, beaucoup de savants de l'époque arrivent à concilier la religion catholique avec leur recherche. Tournal va faire une séparation bien nette entre les deux, Jean-Guilaine ?
Absolument, absolument. Autrement dit, pour Tournal, il convient de séparer la science géologique, qui est l'observation des phénomènes naturels, et la foi, qui relève du domaine du symbolique.
Est-ce que ça va lui valoir des inimitiés ?
Ça lui vaudra quelques inimitiés, mais si vous voulez, il y a eu des inimitiés, il y a eu un article notamment qui dit « bon, il est jeune, c'est un provincial, il changera bon, ». Les inimitiés ne se sont pas tellement exprimées par écrit d'une certaine façon, à ma connaissance. Mais Tournal disait « on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut avoir dans la recherche un pied dans la science et l'autre dans la Bible ». C'était très net et les idées de Tournal, finalement, à travers Boucher de Perthes, à travers les successeurs, se sont finalement imposées. Et je voulais ajouter quelque chose, c'est que Tournal a écrit en 1833-1834 ce que l'on peut considérer un peu comme son testament scientifique, et où il dit finalement... grâce à la géologie, nous connaîtrons vraiment les origines de l'homme, et il ébauche une classification qui est capitale pour l'époque, puisqu'il y a une époque géologique qui est tout à fait sans l'homme. Aujourd'hui, on dirait primaire, secondaire, tertiaire. Puis, une époque géologique où l'homme apparaît, mais c'est un homme qui est antéhistorique. Aujourd'hui, on dirait préhistorique, puisque le terme préhistorique a été adopté plus tard. Et puis ensuite, il y a l'homme historique qui apparaît, voyez. Et en même temps, il y a dans l'esprit de Tournal une espèce de vision de temps long de l'histoire humaine. L'homme puise ses origines dans la profondeur des temps géologiques, et c'est toujours, avec des modifications peut-être, le même homme qui, en longue durée, en quelque sorte, est arrivé jusqu'à aujourd'hui.
Donc son apport est vraiment d'avoir détaché le temps préhistorique des temps gaulois, puisqu'à l'époque, on avait du mal à remonter plus loin.
Et oui. Et d'ailleurs, c'est assez amusant. Je prends un autre exemple en dehors de Tournal. Mérimée, inspecteur des monuments historiques, visite dans le sud de la France un hypogée préhistorique qui date, aujourd'hui on le sait, autour de 3500 avant notre ère. Et il est un peu gêné parce qu'il dit « mais ça, c'est d'une époque qui est avant les Gaulois, c'est d'une époque barbare, voyez, qui est antérieure. » Donc ces notions ne sont pas encore bien fixées, on est en 1834 là, ne sont pas bien fixées, mais on prend progressivement conscience que sans une perspective de temps long, on n'arrivera pas à bien cerner le problème des origines de l'homme.
Alors, Paul Tournal n'a que 27 ans quand il rédige son testament scientifique, donc cette classification dont vous venez de parler, Jean-Guilaine. Et puis, il va prendre d'autres chemins. Il va s'intéresser à la politique, il va travailler comme journaliste. Je voudrais vous faire écouter un extrait de la commémoration de la Révolution de 1848 au moment de son centenaire, ce qui va nous permettre de parler des engagements politiques de Paul Tournal. «
Le 24 février 1848, vers midi, le roi Louis-Philippe quitta les Tuileries pour n'y plus rentrer.
C'est pour commémorer cette date et les événements dont elle marqua l'origine que la Société d'Histoire de la Révolution de 1848 organisait cet après-midi à la Sorbonne la manifestation dont nous allons vous donner un bref compte-rendu. La voix que vous avez entendue il y a un instant est celle de M. Lefebvre, professeur à la Sorbonne, qui retraça le cycle des événements qui devaient faire déferler sur le monde, partout où des hommes vivaient, sous l'oppression d'autres hommes, une vague d'espérance. Mais à peine la liberté triomphante et incertaine cherchait-elle à exploiter sa victoire, que la réaction s'emparait de celle-ci. Le professeur Lefebvre nous promena à travers le labyrinthe d'erreurs qui devait amener le gouvernement provisoire à trahir la mission qu'il avait reçue du peuple. À quoi tenait son échec? Écoutez le professeur Lefebvre.
À quoi rapporter cet échec? On dira, c'est parce que ce gouvernement provisoire était composé de bourgeois, comme nous disons. Mais le régime de la bourgeoisie, son autorité économique et sociale, n'était pas en question. La question ne se serait posée que plus tard. La question qui se posait, c'était de savoir si on pouvait réussir à faire manger le peuple pour le faire vivre en travaillant et s'assurer ainsi son appui pour défendre la République contre ses ennemis.
Voilà, les engagements politiques de Paul Tournal ont commencé bien avant cette révolution de 1848. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans la pensée de Tournal, c'est qu'il n'est pas un révolutionnaire, mais il souhaite un progrès social pacifique et il est nourri des idées saint-simoniennes, Jean-Guilaine.
Absolument, absolument. Autrement dit, il est saint-simonien, il a été converti, si je puis dire, par son beau-frère. Et vous savez qu'en gros, les saint-simoniens prêchaient l'avènement d'une société nouvelle par une transformation plus ou moins radicale du système économique. Mais en même temps, alors on pourrait dire que ce sont des libéraux à tout craint, mais en même temps pour promouvoir une sorte de société de fraternité. Alors, vous avez une critique du christianisme, d'abord, là-dedans, qui s'est peu soucié de l'amélioration de la condition des hommes, qui a opéré une collusion avec les classes dominantes. Vous avez une critique de la noblesse, qui sont les oisifs possesseurs de terre, n'est-ce pas? Et vous avez une croyance très forte dans l'industrie comme ferment de la prospérité, mais une prospérité qui est au service d'une élévation générale du niveau de vie et surtout de l'instruction des classes défavorisées. Il y a un aspect social très fort dans le saint-simonisme, d'où l'importance de l'instruction, de l'école. Ils sont aussi féministes, déjà, voilà, d'une certaine façon, puisqu'ils sont pour l'égalité homme-femme. Alors, on les a taxés d'utopistes, mais en fait, tous ces saint-simoniens, en particulier Michel Chevalier, qui a été le mentor
et bourreau de Paul Tournal.
Oui, mentor et bourreau, parce que Chevalier, était un polytechnicien. Et il avait été d'ailleurs emprisonné au début de la monarchie de Juillet pour ses idées. Il avait été libéré, on l'avait envoyé en Amérique pour voir un peu comment se construisait la société américaine. Et il avait envoyé au Journal des Débats des articles retentissants qui ont fait l'objet d'un ouvrage, ensuite, de sorte que quand il est revenu, le Journal des Débats en a fait sa plume principale. Il a été élu là-dessus au Collège de France, il a été élu à l'Institut, il est devenu sénateur. Et alors, il a contribué, évidemment, avec d'autres saint-simoniens, à développer tout le côté industriel, les chemins de fer. Ils ont un peu construit la France à cette époque-là, d'une certaine façon, vous voyez. Bon, et puis, favoriser l'éducation pour tous. Ils étaient contre la peine de mort pour des raisons politiques, enfin, Tournal au moins. Voyez, donc c'était des gens de progrès à l'époque. Mais ces gens de progrès ont été pris un peu dans le système, puisque avec le Journal des Débats, qui était un journal constitutionnel, proche finalement de Louis-Philippe, petit à petit, ils se sont laissés embourgeoiser. Et à la Révolution de 48 que vous venez d'évoquer, là, en fait, déjà, ils étaient plutôt du parti de l'ordre et non pas du parti socialisant, dirons-nous.
Voilà, c'est-à-dire que Tournal est à la fois un réformiste et un homme d'ordre. C'est important de comprendre ce paradoxe. Hein.
Il craint les révolutions.
Voilà. Et alors, en tant que journaliste, donc, il a clôturé en pour un temps sa carrière de préhistorien, donc il va plutôt écrire sur l'économie. Il est aussi un vulgarisateur de sciences.
Ah oui, voilà, c'est un vulgarisateur de sciences. Il travaille sur l'économie. Il monte à Paris donc pour travailler sur la pression de Michel Chevalier au journal des débats. Ça se passe pas très bien parce que c'est un méridional, il languit un peu Narbonne, mais en même temps, il est un peu perturbé par la vie trépidante du milieu journalistique parisien.
Voilà, il y a cette tension oui. Chez Tournal, hein, entre Paris et le midi.
Ah, tout à fait. Et puis alors, il voit les coteries, les pots de bananes, etc. Et tout ça, n'est-ce pas, ça le déstabilise d'une certaine façon. Mais il a du talent. Il a un talent d'écriture, un talent de vulgarisateur. Il est très bon. Au point que Michel Chevalier lui dit, mais écoutez, vous allez prendre la direction d'un journal en province, puisque c'est votre choix. Je vous fais nommer à Lille. Parce que Michel Chevalier faisait ce qu'il voulait, il avait ses entrées dans les ministères, etc. Et on lui donne la direction d'un journal, un journal constitutionnel, Le Nord. Alors, ça ne correspond pas tout à fait à ses pensées, parce que quand même, il reste gauchisant par certains côtés. N'oublions pas qu'il a soutenu la candidature de François Arago, n'est-ce pas, aux élections précédentes, dans les années 30. Il soutiendra celle de Lazare-Hippolyte Carnot, le père de Sadi Carnot, le futur président de la République, vous voyez. Donc, il est pris en étau entre ses idées, et puis le fait qu'il dirige un journal constitutionnel à Lille. Et là, ça va mal se passer, parce que là-dessus, il y a la chute du ministère Mollet, en 1839, et le journal, en quelque sorte, est pris en main par le préfet, qui est un peu, évidemment, aux ordres du gouvernement. Et lui, il ne veut pas se mouiller, il ne veut pas assister aux réunions des candidats, on dirait plus tard les candidats officiels du régime, etc. Il prend de la distance, et puis là, il comprend que, au fond, s'il aime le journalisme, le côté professionnel et le côté, il faut se mouiller en quelque sorte, politiquement, ça lui déplaît, et il abandonne.
Voilà. Alors et puis surtout, le midi doit lui manquer. Un autre volet important de la vie et de l'œuvre de Paul Tournal est son engagement pour la sauvegarde du patrimoine historique dans sa ville de Narbonne, aux côtés de Viollet-le-Duc et de Prosper Mérimée, l'auteur de Carmen et de Colomba, qui est aussi inspecteur des monuments nationaux. Écoutez lettre de Prosper Mérimée adressée à Arcisse de Caumont, créateur de la Société française d'archéologie. On est en 1834.
Au moment de commencer ma tournée d'inspection, j'éprouve plus que jamais le besoin de réclamer les conseils des personnes qui, par de longues et savantes études, ont acquis la connaissance parfaite des monuments du Moyen-Âge. C'est à vous, monsieur, que je devais m'adresser d'abord. Vos ouvrages m'ont donné le goût de l'archéologie et, depuis longtemps, je désirais avoir l'honneur de faire votre connaissance. Mon prédécesseur, monsieur Vitet, m'a parlé souvent de votre complaisance. Puis-je espérer, monsieur, que vous voudrez bien quelquefois correspondre avec son successeur? Je vais parcourir plusieurs des départements du Midi. Je partirai à la fin de ce mois, ou au commencement d'août, et d'abord j'irai à Vézelay. L'église romane dont Hugues de Poitiers a écrit les Tribulations est dans un bien triste état. Je tâcherai d'obtenir de monsieur le ministre de l'Instruction publique des fonds pour la réparer, ou du moins pour en retarder la ruine. De Vézelay, je me rendrai à Lyon, je visiterai Notre-Dame de Brou, puis j'irai à Vienne, Gap, etc. Veuillez donc disposer de moi et me donner vos instructions. Je ne sais pas encore si je pourrai emmener un architecte. Je dessine bien mal. Pourtant, avec une assez bonne dose de patience et le secours d'une caméra lucida, j'espère pouvoir rapporter des croquis assez exacts. Vous savez mieux que personne, monsieur, à combien d'ennemis nos antiquités sont exposées. Les réparateurs sont peut-être aussi dangereux que les destructeurs.
Voilà, alors sous l'Empire et la Restauration, on commence à classer les monuments. C'est aussi l'époque où on invente l'histoire locale. Quel rôle a joué Paul Tournal dans tout ça, notamment auprès de Prosper Mérimée, Jean-Guilaine?
Alors Prosper Mérimée, dans sa visite des monuments du sud de la France, du midi de la France, évidemment, vient à Narbonne et fait la connaissance de Tournal. Et il voit tout de suite l'intérêt de Tournal, n'est-ce pas, pour tout ce qui concerne le patrimoine. et il va le nommer correspondant du ministère de l'Instruction publique. Mais en même temps, il faut bien voir qu'à cette époque, donc, l'État commence à organiser un système, n'est-ce pas, en quelque sorte, les monuments historiques, avec le poste de Mérimée d'abord, mais d'une certaine façon, la province ne veut pas se laisser dépouiller de son patrimoine intellectuel, disons. Et elle considère qu'elle est d'abord là pour le défendre. Et Arcisse de Caumont, c'est un peu l'antithèse de Mérimée. Mérimée, c'est le pouvoir central. Mmh. Arcisse de Caumont, au contraire, c'est la province. Il crée des congrès nationaux d'archéologie. Il créera aussi plus tard un institut des provinces pour que, en quelque sorte, le savoir ne vienne pas de Paris, mais remonte à partir des élites locales.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout un réseau d'érudits départementaux.
Voilà. Hein. Et oui, et puis il est très remuant, Arcisse de Caumont. Donc, il a beaucoup de correspondants à travers la France, qui sont des correspondants bénévoles, bien entendu, mais il leur donne un titre de correspondant de la Société française d'archéologie ou des congrès nationaux d'archéologie. Et Tournal a joué sur les deux tableaux, si je puis dire. Il est resté en bon terme avec Caumont, mais il s'est beaucoup appuyé sur Mérimée, bien entendu, et notamment lorsqu'il voudra faire les grandes restaurations en Narbonne de la cathédrale Saint-Just ou du palais des Archevêques.
La restauration de la cathédrale de Narbonne est le premier chantier du jeune Viollet-le-Duc.
Voilà. Mais le chantier qui n'aura pas lieu, finalement. Parce que cathédrale se résume, au fond, à un cœur, n'est-ce pas? Le transept, la nef sont inachevés. On proposait de faire ça à Viollet-le-Duc, mais finalement, ça coûtait cher. Il y avait des problèmes locaux. Ça n'a pas marché. Alors, on a donné un lot de consolation à Viollet-le-Duc. On lui a dit de restaurer le palais des archevêques, qui est juste à côté. Et il a restauré une partie du palais des archevêques, mais il est resté en très bon terme avec Tournal, et une amitié a lié les deux hommes, bien entendu. Mais ensuite, on lui a proposé Carcassonne, c'est-à-dire
votre ville, Jean-Guilaine.
Voilà, oui, ma ville. Et Vézelay. Donc, il a, en quelque sorte, il a abandonné Narbonne pour Carcassonne, pour faire court. Alors, c'est assez amusant, d'ailleurs, parce qu'à Carcassonne, il avait été appelé par Jean-Pierre Crosmer-Vieille, qui souhaitait que l'on restaure la cité, qui était un érudit du coin. Et puis ensuite, ça n'a pas marché avec Viollet-le-Duc. Et une fois que le Viollet-le-Duc est arrivé, que les crédits sont tombés, c'est Crosmer-Vieille qui a pris du champ et qui s'est effacé, au fond.
Alors, la dernière partie de la vie de Tournal est consacrée à un retour à la préhistoire et à la géologie. On ne va pas vraiment avoir le temps de parler de ses voyages, mais il a beaucoup voyagé en Europe, en Belgique, en Angleterre, en Espagne et aussi en Italie. On fait quand même un petit clin d'œil à ses voyages avec Gino Paoli, Sapore di Sale sur RFI.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Gino Paoli, Sapore di sale sur RFI. Le plus beau jour d'un voyage est celui où l'on rentre chez soi, dit Paul Tournal, en rentrant au bercail après un voyage en Espagne et toute cette tournée en Europe. Alors ça ne l'a pas empêché, bien sûr, d'être un observateur enthousiaste et parfois critique des lieux qu'il a visités. Alors on va aborder la dernière partie de la vie et l'œuvre de Paul Tournal. Vous dites, Jean-Guilaine, qu'il y a un trou épistémologique dans la vie de Tournal. Alors il est très pris par ses charges diverses, mais au fond, il n'a jamais coupé le fil avec la préhistoire et la géologie. Et il va reprendre contact avec tous les préhistoriens de son époque à la fin de sa vie, quand la discipline est vraiment en train de se structurer. Écoutez la voix d'Henri Breuil, l'abbé Breuil, préhistorien et admirateur de Jacques Boucher de Perthes.
L'énorme découverte que fit Boucher de Perthes est de briser, si l'on peut dire, le cadre des appréciations d'années et de reporter la limite de l'histoire humaine à la perspective géologique. Il faut dire que ce n'est pas le premier qui a eu des teintes de ce sujet. Il est arrivé en Angleterre à deux reprises que des découvertes ont eu lieu dont on aurait pu tirer les conclusions que Boucher de Perthes n'a tirées que beaucoup plus tard. Dès 1600, à Londres, un nommé Conyers découvrait une mâche en pierre associée à des os d'éléphants qu'il a cru être des éléphants de l'armée de César. En 1799, près de l'embouchure de la Tamise à Hoxton, John Frère découvrit et comprit la coexistence de l'homme fossile représenté par des haches avec des pachydermes éteints. Mais personne ne fit attention à leur discrète contribution aux antiquaires de Londres. Il fallait, pour proférer d'une façon intelligible à la masse humaine, quelque chose d'autre qu'un savant. Il fallait un écrivain et, à l'occasion, un brailleur. Boucher de Perthes était ces deux choses. Il écrivait bien et il parlait très bien.
Voilà, Boucher de Perthes est le grand homme de l'abbé Breuil et malheureusement, il ne rend pas justice à Paul Tournal. Alors, ce que vous dites, Jean-Guilaine, dans cet ouvrage, c'est qu'au fond, Tournal avait de bien meilleures intuitions que Boucher de Perthes qui, jusqu'au bout, est resté créationniste.
Ben, pas jusqu'au bout, mais en tout cas, dans ses premiers écrits, il était créationniste. Et autrement dit, on se trouve là, ça me gêne un peu de faire, de comparer, mais Tournal avait un gisement qui a été discuté, et ses fouilles aussi, mais il avait de très bonnes idées. Il avait déjà inventé la notion de préhistoire à travers son antéhistoire. Boucher de Perthes avait d'excellents gisements, en plein air, peu discutables, mais il était toujours créationniste. Au fond, il était cuviériste, encore en 1847, c'est-à-dire une vingtaine d'années après Tournal, vous voyez.
Voilà, au moment donc, où il publie son grand ouvrage.
Je pense qu'en réalité, on a intitulé notre ouvrage Paul Tournal, fondateur de la préhistoire. En fait, il y a eu des fondateurs de la préhistoire. Mmh. Et Tournal en est un, puisque chronologiquement, il est vraiment un des tout premiers.
Voilà. Alors, il faut rendre justice à votre co-autrice, Jean-Guilaine, hein, Chantal Alibert, grâce à laquelle vous avez eu accès aux archives de la famille Tournal.
Absolument, absolument. Et puis, on a eu accès aux archives. Et puis, Chantal Alibert est une spécialiste du patrimoine narbonnais du 19e siècle, c'est-à-dire tout un aspect où Tournal a excellé dans la création du musée, la création de la commission archéologique, les restaurations de Viollet-le-Duc. Donc, si vous voulez, l'ouvrage est écrit à la fois par un archéologue et par une historienne du patrimoine.
Et qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui si on va à Narbonne? L'héritage de Paul Tournal est toujours visible au musée de Narbonne?
Oui, il y a une vitrine, mais si... Vous savez, il va y avoir un grand musée de la Romanité à Narbonne, ce qui va peut-être nous permettre de dégager un peu d'espace dans le musée central de la ville, dans le musée municipal. Et moi, je suis favorable à ce que on rétablisse un peu Tournal dans la force historiographique de sa pensée, je dirais. Et donc, je serais assez favorable à exhumer des réserves où se trouve le produit des fouilles Tournal et à lui consacrer au moins une salle, c'est-à-dire à remettre ça au goût du jour, d'une certaine façon, la position qu'il a occupée dans l'histoire de la discipline.
Mais qu'est-ce qu'on a dans ces réserves ?
Eh bien, on a essentiellement des objets du paléolithique supérieur, c'est-à-dire des objets du Magdalénien notamment, c'est-à-dire des niveaux dans lesquels il a travaillé. Alors, il a atteint les niveaux plus anciens du Moustérien, où il y a des pièces sur quartzite verdâtre qu'il n'a pas bien reconnues d'une certaine façon. C'est Cartaya qui, plus tard, reconnaîtra ses outils caractéristiques du Moustérien de Bise. Voilà. Donc tout ça, il me semble qu'on devrait le mettre en valeur, parce que Tournal mérite mieux au niveau général, au niveau de l'historiographie, mais sur place, dans sa ville, il serait bon de valoriser toujours davantage le rôle qu'il a pu jouer.
Et est-ce que les fouilles de Bise ont continué d'être exploitées après la mort de Tournal ?
Bien entendu, justement, Tournal avait attiré l'attention du monde savant sur Bise, et ça a été un déferlement dans la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe, de chercheurs professionnels ou amateurs à Bise, qui ont souvent d'ailleurs fait des fouilles un peu expéditives. Mais les meilleurs fouilleurs de Bise, ça a été au début des années 30 du XXe siècle, Théophile et Philippe Elena, qui ont réussi d'ailleurs à faire classer les grottes. Et puis, alors, à une époque plus récente, je rends hommage à mon collègue et ami disparu, n'est-ce pas, André Tavoso, qui a fait des fouilles tout à fait performantes, dirons-nous, dans les grottes de Bise. Mais depuis, il n'y a plus de fouilleurs à Bise. Mais il y a toujours sur place une plaque qui rappelle le souvenir de Tournal et du rôle qu'il a joué dans l'émergence du concept de préhistoire.
Merci beaucoup Jean Guilaine. Votre ouvrage Paul Tournal, fondateur de la préhistoire, écrit avec Chantal Alibert, est paru chez Odile Jacob. On vous laisse repartir du côté de Carcassonne. Vous étiez en duplex depuis Toulouse. Merci à Cécile Bounissi pour la réalisation et à Sandra Escamez pour les archives.
Marche du monde.